Amen. Lorsque nous écoutons une prière, comme celle que nous venons, à laquelle nous venons de participer, nous voyons que dans le cœur des hommes, il y a ce besoin de bénédiction. Hein, vous êtes d'accord? On le voit dans la prière. Et ce soir, je voudrais vous parler de la bénédiction. Dans le Deutéronome, au chapitre 27, lorsqu'on voit comment Dieu avait établi au départ les choses, c'était tellement clair que Dieu avait établi deux montagnes. D'un côté, 6 tribus parlaient de bénédiction, c'est dans le Deutéronome, au chapitre 27, et 6 autres tribus, après, présentaient la malédiction. Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, Dieu donne la bénédiction, mais il ne faut pas oublier aussi que la malédiction existe. Et c'est vrai que quand on voit Jésus dire « maudit soit l'homme qui », ça fait quand même de la peine. Mais c'est écrit « béni soit l'homme qui ». Alors nous sommes intéressés, bien sûr, par quel domaine vous êtes intéressés, hein, par la bénédiction. Donc moi aussi. Donc on va lire au chapitre 28, verset 1er, quelques versets, nous allons faire plusieurs lectures. Je vous encourage à les noter, ces lectures. Parce que je me suis rendu compte dans mes cultes personnels, lorsque j'étais pas pasteur, que de méditer les textes qui étaient présentés à l'église m'amenait souvent à réaliser certaines choses dans ma méditation personnelle. Car comprenons bien une chose, Dieu parle, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'accord? Dieu peut parler, est-ce que Dieu peut parler au travers d'une prière de quelqu'un? D'une louange? Est-ce que déjà vous avez été béni par une louange? Est-ce que vous avez été béni par un témoignage? Vous avez entendu un témoignage, vraiment, le Seigneur vous a parlé. Vous avez été béni peut-être par un livre chrétien qui tenait debout et vraiment vous avez été interpellé, etc. Par une prédication, par un chant, etc. Et je voudrais que vous compreniez qu'il y a ce moyen d'être béni, on appelle ça les moyens de grâce. Il y a le moyen de la parole de Dieu qui est un des moyens les plus évidents pour être béni. Mais il y a la révélation personnelle. Et il faut que nous n'oublions jamais cette affaire, que Dieu peut vous parler au travers de quelqu'un, Dieu peut vous parler au travers d'une prédication, mais le Seigneur peut vous parler chez vous. Quelque chose de précis, comme quand Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre, malgré son caractère, qui a eu besoin vraiment d'être corrigé, ce garçon avait vraiment une communion personnelle avec Dieu. Que le Seigneur soit béni. Deutéronome chapitre 28, il y a ce conditionnel, d'ailleurs je lis la Bible en boucle, la prochaine fois que je vais lire, je vais compter les si. Le nombre de fois où il est écrit si. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Je relis ce verset car je sais qu'au milieu de nous, quelqu'un a besoin d'être profondément rassuré. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un obéit, il sera béni à son arrivée, et il sera béni à son départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, c'est-à-dire votre travail. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de leur donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Un petit peu plus loin, au chapitre 30, le Seigneur poursuit, si vous lisez tout ce qui précède, vous verrez qu'il y a cette notion d'obéir en observant et en mettant en pratique. C'est vraiment répété je ne sais combien de fois. Deutéronome 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher et qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Vous avez remarqué que j'ai insisté, que j'ai posé ma voix sur le mot « aujourd'hui ». C'est une immense grâce lorsque Dieu, lorsqu'il parle, nous ramène à l'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes souvent difficiles. Est-ce que c'est pas vrai? Nous avons des luttes et des combats. Et Dieu, si vous entendez aujourd'hui ma voix, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, le Seigneur est assis sur le trône de la grâce. Aujourd'hui, ce soir, Dieu nous rappelle ces choses. Il veut bénir. Mais il y a des lois. Dans le Nouveau Testament, c'est peut-être présenté d'une manière différente. Si vous marchez selon la chair, comment c'est écrit? Vous mourrez. Si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Oui, c'est présenté différemment. Mais c'est exactement la même chose. Il y a un choix à faire qui est dans notre cœur. Et c'est ça. Je ne vais pas certainement être long, mais il y a un moment donné où le Seigneur nous indique certaines choses. On peut perdre beaucoup de temps. Un inconverti, par exemple, il entend la parole de Dieu. On l'entend souvent. Il y a des inconvertis, ils disent, vous savez, j'ai entendu l'évangile, j'ai attendu 16 ans. 16 ans. Tiens, notre sœur Maya, qui a pris le baptême il y a un mois, vous avez attendu combien de temps, Maya, sans vouloir vous culpabiliser? 20 ans. Vous voyez, elle a attendu 20 ans. Mais elle a mûri sa décision, elle a attendu, Dieu respecte, Dieu ne nous oblige pas, il ne force pas, il dit « Efforce-toi d'entrer dans le royaume de Dieu », il n'a jamais dit « Je vais te forcer ». Le Seigneur nous a laissé libres, et il y a cette notion de bénédiction, c'est important la bénédiction. Moi je crois, nous sommes dans des temps archi-graves, difficiles, apostats, iniques. Il est dit que dans les derniers temps, les gens seront méchants, et les chrétiens, ils parlent des chrétiens, méchants, fanfarons, égoïstes, rebelles à leurs parents, irreligieux, déloyaux, etc., aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Même le Seigneur veut tellement nous protéger qu'il nous dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Nous sommes dans des temps archi compliqués, archi difficiles. Vous discutez avec n'importe qui dans la rue, c'est une personne qui est en souffrance. Et nous, nous avons un Dieu qui donne l'espérance, la consolation. Et il y a un moment donné où le Seigneur parle, il dit, voyez, c'est dit avec beaucoup d'intelligence et de tact, aujourd'hui, je mets devant toi, aujourd'hui, mais c'est impressionnant cette capacité que Dieu a de restaurer quelqu'un chaque jour. C'est extraordinaire. Alors, on va lire deux textes que j'ai à cœur. Le premier, c'est dans la Genèse 22, lorsqu'Abraham reçoit un ordre de Dieu qui est une épreuve. Parce que le voulieux ou non, Dieu nous éprouve. Il nous éprouve dans quel domaine? Allez, vous allez m'aider. Dans quel domaine le Seigneur peut-il nous éprouver? La santé. Est-ce que Dieu peut nous éprouver dans la santé? Ben oui. Dans quel domaine le Seigneur peut-il nous éprouver? Le travail? La famille? Oui. Non mais c'est important de le dire. Parce que Dieu permet que nous ayons des épreuves dans tous les domaines et qu'il faut les accepter pour ne pas perdre du temps. Dans la Genèse, chapitre 22, Abraham a beaucoup, beaucoup cheminé avec Dieu. Il a beaucoup appris. Vous savez, quand vous lisez la Bible, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que les expériences que les hommes de Dieu ont faites sont des expériences qui correspondent au progrès qu'ils ont fait avec Dieu. Lorsque, par exemple, notre frère Michael, tout à l'heure, nous parlait d'Ézéchiel, que Dieu a amené dans la vallée des ossements desséchés, bon, c'est vrai qu'Ézéchiel, c'est quelqu'un, mais quand Dieu amène Ézéchiel au chapitre 37, dans la vallée des ossements desséchés, il a déjà parcouru beaucoup d'expériences avec Dieu. Et Dieu va lui faire une expérience, à savoir que Dieu peut changer un cimetière à une armée nombreuse lorsque les gens obéissent. Abraham a beaucoup cheminé, au chapitre 22, il va lui demander quelque chose que Dieu ne nous redemandera jamais, parce que n'oubliez pas que ces choses étaient avant la loi, et qu'après la loi, ces choses étaient strictement interdites. Il est impossible que Dieu demande ce que Dieu va demander à Abraham. Mais juste le verset qui nous intéresse, c'est le verset premier. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Vous connaissez l'histoire, Dieu parle à Abraham et de suite, il va accepter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. Au verset 15, bon, il fait une expérience, il faudrait lire le verset 14, parce qu'il y a quand même cette notion d'expérience importante. Il y a des hommes qui ont donné des noms à Dieu. C'est la première fois que nous voyons Dieu porter le nom de Jéhovah Jiré. Genèse 22, 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. Ça veut dire l'Éternel pourvoira. Il savait. Vous savez, quand vous avez fait certaines expériences, laissez-moi vous dire que vous avez des convictions. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, regardez bien, c'est très, vous savez, moi à une époque, je ne me sentais même pas capable de lire ça à l'église. Je vous assure, et c'est vrai, tellement c'est important. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. C'est pas, quand vous lisez toute la Bible, c'est tout le temps au conditionnel. Si tu fais cela, si mon peuple s'humilie, si vous demeurez en moi, il y en a des centaines et des centaines. On l'a lu, on en a lu quelques-uns, lisez le Deutéronome, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais là, c'est pas si, c'est parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi, je te bénirai. C'est important, mes frères et sœurs. On a besoin de savoir que Dieu va nous bénir. Oui ou non? On en a besoin. Et s'il y a bien quelque chose qui provoque la bénédiction, c'est pas les suppositions. C'est pas j'aimerais ou peut-être, c'est parce que tu obéiras. Parce que, et là, en plus, Dieu dans une solennité qu'on n'a pas l'habitude même de le voir dans la Bible, je le jure par moi-même. C'est rare quand on voit Dieu parler comme ça. Vous avez lu la Bible, c'est rare. Mais là, il y a une approbation de Dieu sur la personne qui obéit. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as obéi, je te bénirai. Et nous pourrions, bien sûr, à partir de ce moment, dire, oh Seigneur, enseigne-moi l'obéissance. Pas juste d'accord, le fait d'être d'accord, le fait de dire c'est intéressant. Non, l'obéissance. Seigneur, tu me montres quelque chose, je veux t'obéir. Alors, franchement, j'avais un dernier texte à partager avec vous. Et ce texte, je pense que quelqu'un en a besoin. C'est un texte tout simple, c'est un psaume. Le psaume 121. Je vous encourage peut-être même à l'apprendre par cœur parce qu'il n'est pas long. Et le Saint-Esprit vous bénira au travers de ce psaume. On va le lire, on va le commenter simplement. Mais je peux vous dire que si nous, nous appliquons, non pas à dire cette prédication, je suis d'accord. Si tu écoutes, non. Si tu écoutes, si tu observes et si tu mets en pratique. Et nous voyons ce psaume qui porte un titre bien dans ma version, c'est le psaume du voyageur. Parce que je crois que sur la terre, il me semble que nous sommes tous des voyageurs. Est-ce que nous sommes des voyageurs ou est-ce que nous sommes appelés à vivre éternellement ici? La Bible dit que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre, que notre maison, elle n'est pas ici. D'ailleurs, pourquoi on ne se sent pas bien sur terre? Parce qu'on n'est pas d'ici, on est du ciel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Notre patrie, elle n'est pas ici. Merci Seigneur pour nos maisons, nos appartements. Peut-être vous avez une jolie maison que vous avez restaurée. Peut-être que vous avez... Oui ou non, hein? Peut-être que vous appréciez votre appartement. Tout ça, c'est des grâces. Tout ce qu'on a est grâce. Tout. Chaque pas que vous faites est une grâce. Chaque pas. Tout est grâce. Mais il n'empêche que nous sommes étrangers. Et en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre, pèlerins ici-bas, sachant que nous allons vivre 20 ans, 60, 80... ceux qui ont plus de 70 ans, ils font du rab. Oui ou non? C'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Oui. C'est pas écrit comme ça, hein? Alors lisons ce psaume, s'il vous plaît. Je voudrais que vous vous appropriiez ce psaume. Parce qu'il montre, parce qu'il y a des psaumes de questionnement, il y a des psaumes de souffrance et d'angoisse, il y a des psaumes qui montrent qu'un homme est béni, qu'une femme est bénie, qu'une famille est bénie. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et tout le monde peut dire Amen. Ça part d'une attitude. Une attitude qui est honnête. Je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est toutes les difficultés. Toutes les difficultés. Il y a toutes sortes de montagnes. Le psalmiste, c'est certainement un psaume de David. Le psalmiste est conscient des difficultés. Lorsqu'il est parlé de montagnes dans la Bible, c'est souvent les difficultés. Quand Dieu dit à Zorobabel, mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est un principe. Quelqu'un qui obéit, la montagne, Dieu va s'en occuper. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Ça veut dire que Dieu le fera. Notre responsabilité, c'est simple. Mes frères et sœurs, Dieu avait demandé au peuple, vous irez sur le mont Garizim et vous prononcerez la bénédiction. Vous irez sur le mont Ebal et vous présenterez la malédiction. Il faut que le peuple l'entende. Il faut que nous sachions comment un homme est béni. Comment un homme n'est pas béni? Un homme rencontre des montagnes. C'est comme ça. Il y a des montagnes, des petites, des grandes. Bon, après, il y a des topinières qui deviennent des montagnes. Si on a le nez collé dedans, une topinière peut devenir
une montagne. Oui ou non? Et c'est vrai qu'il y a des gens, comme on dit, qui se noient dans un verre d'eau. Et c'est vrai. Et c'est quand même dommage. Mais les montagnes, elles existent, c'est vrai. Je lève les yeux vers la montagne. Et bien sûr, la question, ce n'est pas une question de doute ou d'incrédulité. D'où me viendra le secours? Le psalmiste sait très bien que tout le secours, mes frères et sœurs, tout le secours viendra de Dieu. Car là-dedans, une fois que le psalmiste a décidé de lever les yeux au-delà des montagnes, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Vous le croyez que Dieu peut s'occuper de tout? Mais qu'est-ce que ça veut dire au fait? J'aimerais que vous répondiez, pas à haute voix forcément. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit « combat, le bon combat de la foi » ? Vous vous rendez compte? C'est extrêmement rassurant. Le bon combat de la foi, de la confiance. Le bon combat, ça veut dire que c'est pas vous qui combattez. C'est Dieu qui combat pour vous. Sinon, c'est les mauvais combats. Par contre, s'il y a des bons combats, je pense qu'il y en a des mauvais. Et à partir du moment où c'est nous qui combattons, et qui nous agaçons, et qui nous irritons, et qui calculons, etc., ça c'est sûr que les combats, il y a des gens qui disent « je combats le combat ». Oui, mais on pourrait ajouter « je combats un mauvais combat ». Mais il y a un bon combat, c'est celui-ci. Le secours, il vient de Dieu. J'ai peut-être des soins, peut-être que je me fais soigner, peut-être mes médecins me soignent, et tout ça c'est normal. Mais je sais que c'est Dieu qui me secourra. Par le biais d'un médecin ou pas. Mais le secours me vient de l'Éternel. Écoutez, il a fait les cieux et la terre. Bien sûr que pour beaucoup, les cieux et la terre, c'est pas grand-chose. Mais laissez-moi vous dire que quand vous plongez un petit peu dans l'univers des galaxies et que vous regardez ce que Dieu a créé, je trouve que c'est quand même grand. Vraiment grand. Il a fait les cieux et la terre. Alors, regardez bien, on va le relire tout simplement. Et je vous encourage peut-être pendant plusieurs cultes personnels à lire ce psaume, même avec vos enfants, car je crois que nos enfants ont besoin d'être rassurés aussi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne permet pas. En tant que pasteur, je vous le dis franchement, je me suis souvent posé des questions. Quand j'ai vu au milieu du corps pastoral toutes les chutes morales, c'est impressionnant. Vous êtes d'accord avec moi, ça fait... Vous êtes d'accord, mais il n'y a pas que dans le corps pastoral, même dans les églises. Vous êtes d'accord avec moi, toutes les chutes morales. Et un jour, j'avais demandé au Seigneur qu'il me parle. Parce que je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Et en lisant l'Ecclésiaste, regardez avec moi, c'est important de bien méditer. En lisant l'Ecclésiaste, j'ai compris cette affaire que Dieu permet ou ne permet pas certaines choses. Il y a des gens qui sont tellement protégés par Dieu que Dieu ne permet pas. Écoutez, c'est pour moi qui le dis. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 14, il nous est demandé certaines choses qui sont intelligentes. Vous voyez, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Donc il y a des jours où on se réjouit plus que d'autres, il y a des jours meilleurs que d'autres, etc. Il y a des jours où il faut se réjouir, et il y a des jours mais il faut réfléchir. C'est important. Dieu a fait l'un comme l'autre. Après, c'est bien ce... Oui. Verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci. Il y a des choses, il faudrait les retenir, frères et sœurs. Et que tu ne négliges pas cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Vous lirez le contexte et vous comprendrez que ça englobe bien de difficultés. Verset 26. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Amen. Qu'est-ce que vous voyez dans ce psaume? Eh bien, l'explication du verset 3 du psaume 121, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Vous ne trouvez pas que c'est important de savoir que Dieu, lorsqu'il approuve quelqu'un, il ne permet pas certaines choses. Alléluia. C'est bien quand même. C'est une grande espérance, parce qu'on parle dans la Bible d'assurance, mais moi j'ai vu aussi dans la Bible qu'il y a une grande assurance. On parle d'espérance, mais il y a de grandes espérances.
etc. Il est parlé de récompense, mais il est parlé de grandes récompenses, etc. Il ne permettra pas. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un prend la décision, c'est ce qu'on a vu. Abraham, Dieu lui met à l'épreuve, il obéit de suite. Pourtant, ce qu'il lui demande, avouez que c'était quand même difficile. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut demander de facile. Mais vous savez, lorsqu'on veut obéir à Dieu, vous pouvez être sûr qu'on est gagnant. Et là, nous voyons un homme qui a compris. Je lève mes yeux vers les montagnes, c'est classé. Le secours me vient de Dieu. Il est tout puissant. Il ne permettra pas que ceci arrive. Parce que j'obéis. C'est ça la signification. Le psaume 121 est l'explication de Deutéronome 28. Qu'est-ce que ça veut dire, la bénédiction? C'est ça que ça veut dire. Même s'il y a des montagnes. Dans chacune de ces montagnes, Dieu ne permettra pas. Il ne sommeille, il ne dort pas. Nous, on est là, nous, on est fatigués. Le Seigneur, il n'est pas fatigué. La seule fois où il est dit qu'on le fatigue, c'est par nos paroles. Vous me fatiguez par vos paroles. Bien sûr, c'est une façon de parler, puisque rien ne fatigue Dieu. Mais ça prouve que nous devrions vraiment veiller sur nos paroles. L'Éternel est celui qui garde Israël. Il garde Israël, mais aussi, de suite, vous remarquerez qu'il y a tout le temps l'individualité. On le voit dans toutes les églises. On le voit partout. Dieu parle au pluriel. Dieu parle au pluriel. Je vous ai fait ceci, je vous ai fait cela, j'ai fait ceci. Paf, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu parle au corporatif, Dieu parle à l'individu. C'est comme ça. Parce que même si nous sommes un corps, nous sommes chacun une identité particulière aux yeux du Seigneur. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Quelle belle image de savoir que le jour, la nuit, le Seigneur, il nous garde. Il garde nos maisons. Vous croyez que Dieu garde vos maisons? Vous croyez au fait que vous avez des anges qui vous gardent? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Vous savez combien de fois il est parlé des anges dans la Bible, en fait? Tiens, est-ce que quelqu'un le sait? Plus de 300 fois. Ouais. Plus de 300 fois, il est parlé des anges. Il y en a des milliards d'anges. J'ai compté, moi, ce que je compte. Vous savez combien d'anges il y a? Allez, si quelqu'un me trouve le nombre, je lui offre un voyage aux Antilles. C'est écrit. 10 milliards, 1 million d'anges. C'est écrit dans Daniel. Et comme certains regards me font croire que vous ne me croyez pas, regardez, non mais c'est quand même bien. Vous savez, c'est quand même quelque chose. Vous savez, moi je suis simple. Hein? Moi je suis tout simple. Alors, vous lisez avec moi, Daniel chapitre 7. Moi je crois que ce qui est écrit c'est la vérité. Des fois il y a des paraboles, mais là c'est pas des paraboles. Dans le prophète Daniel, regardez, Daniel chapitre 7. Verset 10. Vous ferez le calcul et vous verrez que ça fait 10 milliards, 1 million. Ça en fait du monde, non? Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Pourquoi Dieu a-t-il créé 10 milliards, 1 million d'anges. Et normalement, il y en a certainement un tiers qui a déjà chuté, puisque les démons sont un tiers des anges qui ont chuté. Donc, il doit y avoir 3 milliards, 300 millions d'anges. 300 000. Enfin, si on calcule, mais ça, c'est pas intéressant. Pourquoi il y a tant d'anges? Pourquoi Dieu a créé tant d'anges? Bon, vous allez me dire, parce qu'il est grand. Oui, mais à part ça, moi, je crois que Dieu a créé tous ces anges. Parce que les anges nous gardent. La Bible dit que les anges gardent nos enfants. Et ils te gardent. Tu obéis? Tu veux obéir? Pas écouter. Écouter une prédication qui tient debout. Tu veux entendre? Observer? Et tu veux mettre en pratique dans les différentes épreuves, dans les différentes montagnes qui se présentent? Tu veux faire ça? Tu veux glorifier Dieu uniquement? Eh bien, il ne permettra pas certaines choses dans ta vie. Que Dieu soit béni.
Nous ne pouvons pas juger, à part le péché dans l'Église, que nous pouvons juger. Il ne nous est pas possible de juger le reste. Mais mes frères et sœurs, quand même, parfois, nous nous posons des questions. Et c'est vrai quand même que nous sommes rassurés quand nous voyons un Dieu qui garde un homme, qui garde une femme, qui garde sa maison, que les anges nous protègent. Vous envoyez vos enfants à l'école. Seigneur, protège mes enfants. Vous croyez que les anges peuvent garder vos enfants ou vos petits-enfants? Vous savez, il y a, quand je faisais un camp à Rehoboth, je me rappelle, j'étais toujours à la bourre. Comme on dit, excusez-moi l'expression, mais à la bourre. Toujours. Et un matin, je faisais une réunion, il m'a fallu partir faire un enterrement. Je suis parti vite à la voiture, j'allume la voiture qui ne s'allumait pas. Et j'insiste, vous savez, j'insiste, et la voiture ne s'allume pas. Je sors de la voiture, j'étais pas content, oui, à l'époque. Je sors de la voiture, qui c'est qu'il y avait sous la roue derrière, et Esther en train de jouer. J'ai dit, Seigneur, merci. Je saurai vite ce que c'était. J'ai dit à Esther, va rejoindre ta mère, j'allume la voiture, de suite elle s'est allumée. Vous ne croyez pas que le Seigneur y garde ses enfants? Mes frères et sœurs, l'Éternel est celui qui te garde. Il te gardera dans ton entreprise, dans ta maison. Vous avez vu toutes ces précisions? On en a besoin. Mais tu me gardes, Seigneur, qu'à l'église? Non. Je te garderai sur la route. Que tu sois avec une vieille deux chevaux toute pourrie ou avec une Rolls-Royce blindée, c'est moi qui te garderai. C'est Dieu qui garde. Je te protégerai, je ne permettrai pas certaines choses. Même si l'ennemi voulait certaines choses, moi je ne les permettrai pas. Je te garderai le jour, la nuit. L'Éternel gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alléluia. Vous croyez que là c'est dit le départ, l'arrivée. Dans le Théronome, c'est l'inverse. Mais béni soit le Seigneur. Que son nom soit béni. Mes frères et sœurs, il faut que le si devienne le quand. Pas si tu obéis, mais quand tu obéis. Ces choses-là se manifestent. Une assurance. Vous voyez, il y a des choses que Dieu permet, des choses que Dieu ne permet pas. Vous ne croyez pas que ça serait bien que le Saint-Esprit vous aide, nous aide à nous approprier ce psaume? Il ne permettra pas certaines choses dans ma vie, tout simplement parce que mes yeux sont fixés sur lui et non pas sur les discours des présentateurs TV ou des journalistes qui font tout pour que vous soyez angoissés, mais ne les regardez pas la télé. Moi, franchement, si j'étais angoissé chaque fois que je vois une information qu'il y a ceci, qu'il y a ça, mais je ne regarderais pas la télé. Sérieusement. Non, mais il faut quand même être un peu maso pour regarder des trucs. Moi, des fois, j'entends, t'as entendu ce qu'ils ont dit? Quand j'ai peur, je suis angoissé. Mais je ne regarde pas. Regarde à ce Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui s'est engagé. Parce que Dieu s'est engagé. Il le dit, je serai le même. Jusqu'à la fin, je vous garderai dans votre vieillesse. Jusque dans votre vieillesse, je me suis engagé à vous garder. C'est écrit. Vous croyez qui? Les présentateurs de BFM? Ou vous croyez le grand Dieu de l'univers? Qui vous croyez le plus? Qui? Le Seigneur de l'univers? Qui nous dit ce soir, je te garderai. Tout va aller de plus en plus mal, mes frères et sœurs. Mais ceux qui auront les yeux fixés au-dessus des montagnes, ils vivront cette affaire. À celui qui vaincra. Toutes les lettres, dans les églises, compliquées ou pas, Dieu a dit la même chose à la fin. À celui qui vaincra. Il ramène toujours, je le répète, à l'individu. Parce que c'est une affaire personnelle. C'est délicat parce que ce verset peut être très mal utilisé, mais que t'importent les autres, toi, suis-moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Père, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Si tes commandements sont exigeants et combien nous les apprécions, combien nous sommes bouleversés par toutes tes promesses, lorsqu'un homme sur la terre t'obéit
et qu'il a les yeux fixés au-dessus des montagnes. Merci, Seigneur. Tu n'es pas que notre sauveur, tu n'es pas que le rédempteur, tu n'es pas que le juge dans l'éternité, tu es ce Dieu protecteur, tu es Jéhovah Jiré, le Dieu capable d'ouvrir le ciel au-dessus d'un homme, d'une famille, d'une église, lorsque ces personnes t'obéissent, que ton nom soit béni. Garde-nous, Seigneur, les yeux fixés sur toi. Où que nous serons, où que nous irons, Seigneur, le jour comme la nuit, que nous réalisons, Seigneur, que si tu as créé tant d'anges, c'est parce que tu protèges ton peuple, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.